avec Alliance Vita au service des plus fragiles.
Chers auditeurs, le 27 mai dernier, à l'issue de l'examen en séance publique, la proposition de loi qui entend légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, derrière l'expression trompeuse d'aide active à mourir, a été votée par une assemblée au final assez divisée. Dans un contexte sanitaire marqué par les difficultés croissantes que rencontrent les Français pour accéder aux soins, ce sont donc 54% des députés qui ont opté pour la levée de l'interdit de tuer. Le même jour, la proposition de loi relative aux soins palliatifs a été adoptée à l'unanimité par la même assemblée. C'est assez rare, alors il faut le souligner. Bien qu'essentielle, cette loi sur les soins palliatifs prévoit de se déployer sur 10 ans. On parle de stratégie décennale. Elle ne pourra pas compenser les effets délétères de la prétendue aide à mourir qui, si elle entrait en vigueur, serait, elle, immédiatement disponible. Les élus ont donc pris le risque redoutable que des personnes malades se tournent vers la mort administrée faute d'accès rapide aux soins appropriés. Comme beaucoup de concitoyens, j'ai écrit à des députés. Comme beaucoup, j'ai reçu des réponses décevantes par leur naïveté. Je cite par exemple une phrase reçue de l'un d'entre eux, peut-être que certains reconnaîtront parce que je pense que tout le monde reçoit la même. Les députés ont travaillé à une ligne d'équilibre sur un nouveau droit d'aide à mourir. Je tiens à vous préciser que cette proposition de loi encadre strictement le droit de l'aide à mourir, etc., etc. Pourtant, dès le début des débats et en s'appuyant sur les exemples étrangers, Alliance Vita a mis en garde contre le caractère illusoire d'un cadre qu'on prétend strict. Il est voué à dériver dès lors que l'interdit de tuer est levé. Dimanche dernier, dans le podcast Les Lueurs, en mode confidence, l'ancien président de la République, François Hollande, expliquait tranquillement qu'en matière de loi sociétale, on procédait toujours comme ça. Qu'il ne faut pas tout chambouler d'un coup, mais travailler la pédagogie pour faire changer les mentalités, pour que les gens adhèrent petit à petit. Je le cite. « L'intention, c'est toujours d'aller le plus loin possible. Mais si pour aller le plus loin possible, on va nulle part, ce n'est pas la bonne méthode. Les réformes de société se font par étapes et non par rupture. Pour lui, il n'y a pas de limite tant que ce qu'il considère comme un progrès correspond à une aspiration apparente de la société. Le texte qui vient d'être voté en première lecture n'est pour M. Hollande que la suite logique de la loi de 2016 qui a vu le jour sous son quinquennat. Il estimait qu'à l'époque, l'opinion française n'était pas encore prête pour l'euthanasie. Alors la sédation profonde et continue était pour lui un bon compromis en attendant mieux. Nous sommes en 2025 et le texte proposé actuellement confirme bien cette tactique, tant les critères sont élargis, à commencer par celui d'une situation de fin de vie tout simplement évacuée, faisant entrer dans le champ éligible des centaines de milliers de personnes. Le 12 mai dernier, au moment où les députés commençaient l'examen des propositions de loi, Alliance Vita a organisé une cinquantaine de rassemblements dans toute la France pour alerter justement sur le manque d'accès aux soins qui est la véritable priorité. En plein air, des hôpitaux de fortune incarnés par des personnes en blouse de patients se sont ainsi déployés, quelle que soit la météo, dans tout l'Hexagone et jusqu'à Fort-de-France. Dans notre département aussi, à Pau et à Bayonne, en s'étendant sur le sol, les manifestants ont voulu alerter les députés et porter la voix de tous ceux qui, fragilisés par la maladie, le handicap ou le grand âge, se sentiraient poussés vers la sortie faute de soins. Merci à tous ceux qui ont pu se libérer ce jour-là. Si Alliance Vita et d'autres associations engagées pour le respect de la vie et des plus vulnérables se sont naturellement et rapidement mobilisées contre un changement de la loi, d'autres oppositions de sensibilité variée se multiplient désormais. Elles méritent d'être connues et relayées car elles sont significatives du dépassement des clivages face à l'importance et à la gravité du bouleversement induit par ce texte s'il allait au bout de la procédure parlementaire. Voici quelques exemples. Il y a bien sûr un fort courant protestataire du côté des soignants, en particulier à partir de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. 13 organisations scientifiques ou syndicales de soignants se sont agrégées pour déclarer ensemble que donner la mort n'est pas un soin. D'autres appels ou manifestes ont émergé rassemblant des professionnels de la santé mentale. Plus de 500 psys contre l'euthanasie ont publié un appel « Comment peut-on prétendre prévenir le suicide tout en légitimant la mort provoquée ?» Il y a aussi plus de 400 pharmaciens, qui est une profession de santé privée de toute clause de conscience, qui ont aussi protesté. À côté de ça, le collectif Jusqu'au bout solidaire, JABS, qui est très actif sur les réseaux sociaux, rassemble des citoyens et des soignants de gauche contre l'euthanasie. Il a fait paraître le 11 mai dans l'Humanité une tribune « La gauche doit s'opposer à la loi validiste et antisociale » et enjoint les députés de gauche vraiment à s'y opposer. Il y a aussi des personnes porteuses de handicap qui ont partagé leurs craintes. On peut citer par exemple le rassemblement de quelques centaines de personnes qui a eu lieu à Paris devant les Invalides sous le nom des Éligibles. Ils voulaient dénoncer la stigmatisation que le texte de loi porte en ouvrant la possibilité du suicide assisté à de nombreuses personnes souffrant de maladies graves ou de handicap. Des associations de personnes handicapées avaient déjà publié des alertes auparavant, comme le collectif « Un gros risque en plus » dans une tribune publiée dans Le Figaro qui a recueilli des centaines de signatures. Il y a aussi le collectif Démocratie, Éthique et Solidarité, DES, qui est porté par de nombreuses personnalités du monde scientifique, politique, juridique ou culturel, comme par exemple Emmanuel Hirsch, Laurent Frémont ou Jean Leonetti. Il rappelle dans un récent communiqué de presse que le texte de loi a également pour effet de remettre en cause les valeurs et le sens du soin, de la relation à l'autre, de nos solidarités humaines et sociales. Il y aurait bien d'autres exemples, mais je terminerai par citer celui des juristes, 575 juristes qui ont signé ensemble une tribune en exprimant « Notre droit ne peut considérer que la vie serait une valeur relative car elle est la condition de tous les autres biens. » Il s'interroge aussi en ces termes « Si la volonté de mourir devient cardinale, au nom de quoi pourrait-on continuer à s'opposer au suicide tout court ?» Alors si ce vote marque une étape malheureuse, il n'est pas l'aboutissement du processus législatif, il faut le rappeler. Les discussions doivent se poursuivre au Sénat à l'automne, qui peut rejeter ou modifier le texte avant une deuxième lecture à l'Assemblée en 2026. Ce texte controversé pourrait connaître un blocage en commission mixte paritaire et être l'objet d'une nouvelle lecture si sénateurs et députés ne s'entendaient pas sur un texte commun. Donc rien n'est joué, le consensus n'est pas si évident, les points de vue et les oppositions se multiplient. Ils convergent vers une certitude, la résistance à ce texte néfaste doit se poursuivre courageusement au nom de la solidarité avec les plus vulnérables. Merci de votre attention et bonne pause estivale. Rendez-vous à la rentrée.
Retrouvez toute l'actualité d'Alliance Vita sur le site alliancevita.org.